Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur le podcast de Pauline Léniaud. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast, j'y invite chaque semaine, tous les lundis, des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres pour me parler de leur parcours et de leur réussite. C'est une conversation intime, comme une fenêtre ouverte sur les pensées et réflexions de personnes qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un épisode que j'estime vraiment spécial. J'ai le plaisir d'inviter à mon micro David Gourlet. David Gourlet est un entrepreneur et ingénieur français reconnu comme l'un des pionniers des communications IP. Vous savez, ces communications Internet Protocol. Il est le fondateur et dirigeant de la société Symphony Communication Service, considérée comme une licorne depuis sa valorisation à plus $1 milliard en 2017. Surtout, David est un personnage absolument passionnant, vous allez voir. Vous savez que je suis très exigeante avec les invités que je reçois sur le podcast et que j'évite les histoires à succès à la mode ou les histoires de succès fulgurants. Cet épisode, je trouve, est un parfait exemple de ce que j'adore le plus avec le podcast, vous faire découvrir des personnalités peu médiatiques, mais ô combien exceptionnel. Avec David, on a parlé de son enfance incroyable au Moyen-Orient et de la richesse que cette culture lui a apportée. On a évoqué sa carrière dans le monde corporate avec des grands noms de l'informatique, quand même des personnes non moins connues que Bill Gates, de son grand saut dans l'entrepreneuriat alors qu'il était papa, qu'il était bien installé, qu'il avait vécu toute sa vie en tant que salarié. On a parlé de feedback, d'honnêteté intellectuelle ou encore d'esprit critique. Une très belle discussion où j'ai pour ma part pris beaucoup de plaisir. J'espère que ce sera le cas pour vous également. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec David Gourlet. Bonjour David.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de vous accueillir, merci mille fois.
Merci de m'avoir, le plaisir est le mien.
Écoutez David, j'ai plein de questions pour vous et je me suis dit qu'on allait rentrer, si ça vous va, dans le vif du sujet. J'ai trouvé une citation, vous allez me dire si elle est vraie, si elle vient bien de vous. Et je voulais que vous m'en parliez, que vous commenciez voilà, par m'expliquer en fait qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, peut-être avec un exemple concret. Vous dites, si je me trompe pas, la start-up, c'est une lutte. Lorsqu'une entreprise démarre, tout est à établir, tout change, cela requiert une mentalité d'optimisme, de persistance et de persévérance.
Je dois l'avoir dit.
À un moment donné.
À un moment donné. Et vu que je suis en train de faire deux autres start-up, je pense que c'est vrai et je dois pas être le seul à le dire. Alors, les exemples, j'en ai tellement. Parce que en fait, d'abord, c'est quoi un startup? C'est l'individu ou un groupe d'individus qui sont pas satisfaits des solutions existantes. Il se trouve que ils voient un certain nombre de problèmes dans la société, quel que soit le type de problème, et ils ont l'impression que ils peuvent amener une solution meilleure, parfois moins chère, parfois plus beau, plus convenient par rapport à ceux qui existent. Donc déjà cet acte de penser et de désir de changement, et c'est un acte extrêmement difficile parce qu'on va aller changer des habitudes, tous les individus qui sont impliqués dans cette habitude qui existe, et on va donc à l'encontre de ce qui existe. Donc on va déjà dans une lutte. Alors, ça, si c'est quelque chose qui est agréable, ça devient beaucoup plus facile. Mais parfois, il y a des choses difficiles à changer. Si vous avez des habitudes de faire des choses d'une certaine manière, on a parlé ce matin de croissant et de café. Ben moi, je n'aime pas boire le café américain. Et si vous me forcez à boire le café américain parce que vous avez trouvé un mélange de café formidable, ça va m'embêter. Et donc, ce petit exemple, on peut le généraliser sur plein d'autres choses. Donc, Alors, on reçoit donc beaucoup de rejets, naturellement,
oui.
Parce qu'en fait, le contraire serait bizarre. Et puis ensuite, derrière, il faut vendre, en fait. Il faut avoir l'empathie. Et il faut constamment revenir sur la solution. Donc, c'est là que devient la persévérance clé de la question. Et souvent, les gens confondent persévérance et obstinance.
Mm.
Et c'est là souvent que les entrepreneurs se plantent. C'est parce qu'en fait, le marché, c'est pas un mur, en fait. C'est-à-dire que il évolue. Votre idée non plus n'est pas un rocher taillé en granit. Il doit évoluer. Et donc vous trouvez souvent dans les situations d'échec avec les entrepreneurs qui ne veulent pas changer en fait par rapport à l'hypothèse initiale avec laquelle ils ont entrepris. Et ça, c'est, on va dire, le premier moment de l'échec, en fait. Donc, bon, on en parlera, j'espère, à d'autres occasions, mais quand j'ai créé... la première société que j'ai créée, c'était Perzo. Je suis allé voir 32 investisseurs à Silicon Valley. Il y en a 31 qui m'ont dit non. Et donc, c'était très difficile oui. de recevoir autant de noms. Et lorsque il y a donc une société qui m'a dit oui, c'était, j'avais reçu tellement de noms, je pensais qu'ils se moquaient de moi. Donc, oui, il faut persévérer et il faut savoir écouter.
Et alors, c'est intéressant comme exemple parce que vous parliez du fait qu'il ne faut pas confondre persévérance et obstination. Et je suis complètement d'accord, bien sûr, mais ce n'est pas facile de savoir à quel moment est-ce qu'on est en train de persévérer et puis à quel moment on est en train de s'obstiner. Peut-être via cet exemple ou un autre, est-ce qu'à un moment de... comment est-ce que vous faites justement pour un peu décider, non, là, en fait, c'est de la persévérance. Et donc, dans le cas de votre exemple, j'ai 31 fois eu un nom, mais je ne vais pas changer mon pitch vraiment. Et en fait, je vais continuer et c'est juste qu'il faut que je trouve la bonne personne. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez adapté légèrement à chaque fois votre pitch avec des feedbacks à chaque fois des différents investisseurs qui fait que finalement, la 32e fois, il y a eu un oui aussi parce que vous avez justement pris en compte le marché et donc ça n'était pas de l'obstination, là, c'était de la persévérance.
Alors, on va dire obstination adaptative. oui, moi, enfin, ma stratégie à moi, c'est vraiment de m'adapter en fonction du feedback que je reçois.
Mm.
Donc, parce que tous ces individus qui participent en fait à la sculpture de votre idée vous amènent des petits coups de marteau qui vous permettent d'affiner ce bel objet que vous construisez. Et l'ignorer, ça serait vraiment stupide. Ça serait idiot. Alors, parfois, il y a des idiots avec qui vous devez discuter et vous le voyez tout de suite que c'est ouais. des idiots. Et bon, alors, vous le remerciez gentiment.
Avoir un peu de jugement, il y a l'esprit critique.
Exactement. puis, vous ignorez ce coup de marteau.
Ouais, ouais.
Mais la plupart du temps, c'est des bons feedbacks. Donc, moi, ça a toujours été... OK, qu'est-ce que je sors de la réunion d'abord, comment est-ce que je me suis comporté? Est-ce que j'étais capable d'articuler correctement la proposition? Est-ce que j'ai pu répondre à leurs objections, etc. Et puis ensuite, je change le deck entre chaque
Donc investisseur. Donc sur ces 30, sur 30 cet exemple, ouais. vous avez effectivement adapté à chaque fois ouais. la présentation,
Exactement.
Le discours, etc.
Et vous avez absolument raison de dire, est-ce que le 32e... le 32e version du deck, c'était vraiment très différent de la première version du deck.
Exactement. Voilà.
Alors, par exemple, dans la première version, je voulais absolument aller consommateur. Et j'ai reçu que des réponses négatives. Et puis, je me suis dit, bon, alors je vais changer, je vais mettre entreprise d'abord. Et ça a marché.
Tout de suite. C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, une fois de plus, qui confondent persévérance et obstination et qui ne se disent pas en fait qu'on a le droit de changer ou d'adapter une idée. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous parce que j'avais un peu lu ça au travers des lignes de ce que vous disiez. C'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'en fait on croit à quelque chose en son projet qu'on est lâche, si je puis dire, quand on adapte. Je pense qu'il y a un peu une notion d'ego, une notion aussi de se dire, non, en fait, pour que ça fonctionne, on a tous ces histoires, vous savez, de Steve Jobs ou je ne sais qui a
qui avait cette idée folle en tête et qui s'est accroché. Mais je trouve ça très intéressant de voir que on peut avoir son idée, mais il faut quand même un petit peu l'adapter au marché pour en fait juste qu'elle corresponde à quelque chose qui fit avec le market, quoi.
Je dirais même, c'est la loi du marché. En fait, c'est la seule loi qui marche. Je pense que lorsqu'on voit les produits que Steve Jobs ou Apple ou d'autres individus, où on a quand même parlé d'Elon Musk avec Tesla, qui est plus d'actualité, aucun de ces produits n'était la même chose qu'ils ont conçu. Oui. Donc, il y a toujours eu un va-et-vient. Alors, parfois, c'est des va-et-vient difficiles. Hein. Donc, les individus, parfois, ont des fortes têtes. Hein. Mais c'est pas pour autant que la forte tête... peut casser les granits du marché. Donc, à un moment donné, ça se traduit par un échec. Et ceux qui sont capables de prendre cet échec, pas comme un échec final, mais comme un échec d'apprentissage, c'est ceux qui sont capables de finalement amener leurs idées, leurs entreprises au succès. Et je vois ça très souvent dans une de mes startups. Moi, je conseille beaucoup de fondateurs. Et il y a vraiment ce groupe qu'on peut vraiment séparer, ce groupe qui est vraiment à l'écoute du marché, j'ai une bonne idée, mais cette idée va évoluer, et un autre groupe qui est de dire, non, je veux faire ça, de toute manière, je dois essayer, et en fait, ceux qui ne font que ça, ils sont en train de se planter. Et c'est très difficile, même moi, en tant que coach expérimenté, de leur expliquer, de leur montrer que, attention là, t'es en train d'aller vers un puits sans fond, et le problème, c'est que tu n'amènes pas que toi dedans, tu amènes ton équipe et tes investisseurs. Et donc pouvoir avoir cette lucidité, c'est vraiment important.
Au final, là, on parle un petit peu de feedback entre les mots. Et je voulais vous demander deux questions. Alors, c'est un peu bizarre peut-être, mais vous allez me dire, est-ce que vous êtes quelqu'un, vous considérez que vous prenez bien le feedback?
Probablement pas.
Bah, au moins, vous êtes lucide dessus. Parce que, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de dire, il faut avoir un growth mindset et apprendre, etc. Oui, c'est vrai, mais en même temps, ça reste tellement dur, le feedback, que ce soit le feedback du marché, que ce soit le feedback d'un proche, de qui que ce soit, enfin d'un investisseur qui nous dit « Non, mais en fait, là, tu te plantes complètement, voilà ce qu'il faudrait faire » ou « Je peux me permettre de dire que là, tu as été mauvais dans ta manière dont tu as parlé. » Et du coup, je voulais savoir, vous qui, en fait, avez quand même construit une entreprise où je peux imaginer que vous en êtes pris plein des feedbacks du marché et de beaucoup de monde, est-ce qu'en fait, c'est quand même un muscle qu'on arrive à cultiver et qui s'affermit avec le temps ou pas? Et ça reste dur tout le temps.
Alors, moi, je sais pas quand j'ai eu ce moment, je devais être jeune. À un moment, j'étais avec des copains, peut-être j'avais 16-17 ans. Et un jour, je lui ai demandé à un de mes copains, quels sont mes défauts, s'il te plaît? Dis-moi mes défauts. Et je sais pas pourquoi, j'ai posé cette question. Mais lorsque la personne, je me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a vraiment fait mal.
Ouais.
C'est comme si j'avais reçu un coup de poing sur mon visage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait être vrai. Donc, si ça fait mal, c'est que quelque chose qui m'a touché. Et ça m'a jamais quitté. À la date d'aujourd'hui, si je reçois un feedback vraiment, je veux dire, pointu et correct, ça me touche.
Ouais.
Ça me fait un peu mal.
C'est hyper intéressant.
Dans l'estomac. Et là, je pense que je suis sur quelque chose. Donc, j'ai grandi. Je pense qu'il y a l'art de donner des feedbacks et aussi l'art de le recevoir. Et j'ai grandi et je me suis dit, ah, ça, c'est un signe, en fait. C'est juste un signe, c'est un signal que moi, je dois interpréter et c'est à mon choix de l'interpréter. Et j'arrive à beaucoup mieux réagir que je le faisais avant. Et je continue toujours, je suis toujours à la quête de feedback, de m'améliorer dans n'importe quoi que je fais. Et puis, c'est aussi un état d'esprit de athlète professionnel du monde d'entreprise. Parce que si on faisait un petit parallèle dans le monde du sport, surtout aujourd'hui avec les technologies qu'on a, on prend des données sur les techniques. Imaginez que vous êtes un joueur de tennis, votre coup droit, votre revers, votre service, on analyse tout, je veux dire, moindre détail. Pourquoi on fait ça? Enfin, pour pouvoir donner du feedback aux joueurs de tennis, aux joueuses de tennis, pour que ben, la prochaine fois, ils font le meilleur coup. Et je vois pas pourquoi nous, dans le monde d'entreprise, on s'affranchira de ça. C'est un outil formidable, le feedback. Il faut juste qu'on sache le recevoir et on sache le donner aussi. Et ceux qui sont capables de faire ça, en général, ceux qui sont capables de le recevoir bien, ils sont capables de donner très, très bien. Parce qu'ils savent comment former les mots qui vont pas faire autant de mal, mais qui vont faire juste assez pour qu'on essaye de s'améliorer.
C'est hyper intéressant, David. Bah, alors, vous m'avez lancé une perche parce que vous êtes revenu un peu en enfance et je voulais parler de votre enfance qui a l'air folle.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez juste déjà nous expliquer où est-ce que vous avez grandi ? Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits différents. Comment était votre famille ? Comment était le petit David ?
Un rêveur, un imaginatif et qui voulait déjà changer le monde. Donc ça, je me rappelle bien parce que c'est comme ça que ma mère me présentait tout le monde, tout le temps, des gens, oh, c'est un rêveur, laissez-le, etc.
Et ça se manifestait comment, le fait que vous soyez rêveur ?
Par exemple, si on allait voir des gens, invités, donc vous savez, un enfant, à l'époque, un enfant ne devait pas parler à table, c'était une discipline tout autre qu'on a aujourd'hui. Moi, je vivais dans mon monde, et je faisais mes propres trucs, et quand on me posait une question, en fait, j'entendais même pas parce que je vivais dans mon monde à moi. Donc ce monde de rêve que je créais, pour quelle raison, j'en sais rien, était déjà présent, dans ma personnalité. J'ai grandi au Moyen-Orient, des parents diplomates, qui m'ont baladé un peu partout dans le Moyen-Orient. Et en fait, ça m'a permis d'aussi... une autre particularité, c'est que, bien que c'est diplomate, j'ai été dans les écoles nationales.
Locales.
Donc, du coup, j'ai pu voir une perspective très différente qu'un fils de diplomate l'aurait vu si on allait dans les écoles privées réservées au quartier des diplomates. Donc, j'ai passé une enfance formidable, j'ai eu des copains, je me suis amusé, j'ai eu des difficultés, etc. Mais le fait d'avoir grandi à Moyen-Orient et d'avoir vu le côté, on va dire, les différents secteurs musulmans donc de Moyen-Orient et leur lutte de subsistance et parfois entre les pays m'ont permis de comprendre des perspectives. En fait, sur la différence fondamentale de la culture occidentale par rapport à la culture non occidentale. Et ça, on l'oublie très souvent, c'est que dans la culture non occidentale, et je ne veux pas généraliser parce que je ne suis pas l'anthropologue, mais disons que dans ces pays où j'ai vécu, la famille est avant tout la chose la plus importante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, la question qu'on vous pose... ou la question que vous poserez, c'est pas ce que vous faites. C'est d'où tu viens, c'est qui ton père, c'est qui ta mère, c'est quoi la filiation de ton existence. Ça détermine énormément, on va dire, le niveau d'importance de cet individu vis-à-vis donc de ses accueillants. Dans notre société à nous, on pose la question, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu travailles, aux États-Unis combien tu gagnes,
c'est révélateur. En France, pas trop.
On pose des questions un peu tordues pour y arriver, mais mais c'est cette différence, évidemment, j'en étais pas conscient lorsque j'étais jeune, mais je voyais qu'il y avait une différence, mais je pouvais pas l'articuler. Mais dès qu'on est retourné en France, quand j'avais 14 ans, j'ai pu tout de suite voir cette différence de l'importance de l'individu vis-à-vis de l'importance de la famille. Et il y a du bon et du mauvais dans les deux côtés, donc on va pas dire que quelque chose est mieux ou pas, mais ça m'a permis de voir ce contraste. Et j'ai pu avoir justement cette dualité dans moi qui est toujours là, où j'essaie de prendre, je sais pas si j'y arrive, le meilleur de chaque côté. Parce qu'il y a des trucs formidables du côté de la famille, mais ça peut être un fardeau énorme. Mais il y a aussi des côtés formidables du côté, on va dire, individualisme, mais ça peut être très isolant. Donc pouvoir prendre un petit peu faire la part des choses et d'essayer de récupérer le meilleur des deux cultures, ça a été mon enfance. Et j'en suis vraiment ravi parce que j'ai vraiment une chance unique.
Est-ce que vous auriez un exemple, David, c'est peut-être difficile, mais justement, vous avez essayé de prendre un peu des deux côtés, c'est-à-dire à la fois garder cet aspect très famille, englobant, le côté oriental qu'on peut très bien imaginer, et puis en même temps, peut-être dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, quelque chose de plus individualiste comme on le connaît en Occident.
Oui. Je parlerai plus du côté occidental. Si vous interrogiez des gens qui ont travaillé pour moi, je pense et j'espère qu'ils diront qu'ils faisaient partie de la famille de David. Parce que je les traitais comme j'aurais aimé être traité si j'étais membre de leur famille. Et donc, je m'attachais d'abord à l'homme, en général, plus qu'au métier de cette personne. Et donc, du coup, on a toujours eu une culture très tight, comment on dit ça, très serrée et très fort. Et je prenais le petit déjeuner avec une de mes employées de Symphony ce matin, et elle regrettait même ce qu'on avait et qu'on n'a plus aujourd'hui. Et donc je pense que c'est ça l'illustration de cette éducation. Tout en célébrant l'individu, mais sans oublier que cet individu fait partie d'une famille. Qui a des valeurs et qui a des obligations. Et donc, pour moi, c'était d'abord l'obligation de dire que la personne qui travaille pour moi, c'est avant tout un homme dans au sens général de l'humanité, avant d'être un employé. Et d'établir cette connexion émotionnelle. Et donc, une fois que vous avez établi cette connexion émotionnelle, en fait, tout change. En fait, tous les échanges sont très, très différents. Par rapport à l'échange professionnel qu'on pourrait avoir, par exemple, à l'extrême du côté anglo-saxon.
Mais je me permets de vous révéler quelque chose, David. Ne serait-ce que quand vous m'avez serré la main ce matin, on ne se connaissait pas, quand vous avez parlé aussi à Pauline, qui est avec moi là dans la salle pour vous enregistrer, on a senti qu'en fait, vous ne preniez pas les gens à la légère. C'est-à-dire que c'était un regard franc, c'était une main franche, enfin je veux dire on était dans le contact humain quoi, on était de personne à personne, et c'est pas toujours le cas. Et je pense que ça se sent en fait aussi au travers de ce genre de petits détails, que vous accordez une importance en fait à chaque individu et que vous les valorisez quoi d'une certaine manière. Enfin moi je l'ai senti assez distinctement, si vous voulez, quand on s'est rencontrés.
Bah je savais pas que c'était le cas, mais je pense que c'est le résultat en fait de cette éducation que j'ai eue dès mon enfance. Je ne sais pas comment vous expliquer la chaleur. Alors, on allait avec mon père et ma mère dans des villages, dans ces pays-là. Parce que mon père, il s'occupait de l'irrigation des pays sous-développés, donc du côté du Moyen-Orient. Donc, il fallait souvent aller dans des villages où il n'y avait pas d'eau. Ces gens-là n'avaient rien. Mais quand je dis rien, ils n'avaient rien. Mais on allait chez eux, on avait l'impression qu'on faisait partie de leur famille depuis 100 ans. On a l'impression que nous étions les personnes et les choses les plus importantes à cet instant donné. Et cette attention qui nous donnait, je pense que c'est humain, quoi. Ça nous rassure tellement, cette appartenance qu'on ressent. Et ça m'a toujours touché. Et cette hospitalité m'a vraiment touché. Et je pense que je le réflète. Hein. C'est juste un effet miroir de cette enfance.
J'ai lu, David, que vous aviez appris au décès de votre maman qu'elle travaillait en réalité pour les services secrets britanniques. Et en fait, j'aurais aimé savoir quelle avait été votre réaction à l'époque, votre émotion. Parce que je peux imaginer que quand on a connu quelqu'un toute sa vie, qui en plus sa mère, et que tout d'un coup, en fait, on apprend qu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ne connaissait pas, d'une certaine manière, ça doit être très déstabilisant.
Alors, c'est d'abord très étonnant, parce que si vous connaissiez ma mère...
Elle n'avait pas l'air d'être un agent secret. Vous savez que j'ai déjà eu un agent secret sur le podcast, et il m'a dit qu'il avait été choisi parce qu'il n'avait pas l'air d'être un agent secret. On le voit comme ça, il paraît tout bonhomme, tout. Et donc, c'est drôle.
Oui, la preuve, donc on a deux preuves.
Ils font bien leur travail.
Ils font bien leur travail. Là, c'était en fait, pour moi, c'était non, je ne peux pas croire, pas elle.
C'est fou.
Parce qu'on s'imagine tous Ian Fleming et puis le caractère qu'on voit dans les films. Mais en fait, c'est quand ces gens-là, ils sont plus ou moins ordinaires dans leur vie quotidienne. Mais ils font des choses évidemment importantes pour leur pays. D'abord, il y avait cette incrédulité. Je peux pas imaginer que cette femme que je connais, telle ma mère, puisse en fait faire ces choses-là que j'ai lues. C'est pas possible, parce que c'est pas sa personnalité. Et puis ensuite, mais comment elle a fait pour cacher tout ça pour autant d'années?
Oui.
Ensuite, comment elle a fait pour ne pas en parler même après la retraite? Parce que c'est des secrets. Enfin, je pense que l'homme a envie de parfois partager ses secrets. Et puis ensuite, la curiosité. C'était, je veux comprendre plus. Mais le problème, c'est que il n'y a rien de plus que je peux récupérer que par rapport à ce qui existe sur Internet, où j'ai trouvé quelques informations ici et là. Et puis vous savez, il y a trois ans, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre. Donc je reçois rarement des lettres écrites. Hein, je veux dire, on est tous email, ou message, ou téléphone. Mais une lettre. Voilà, je m'appelle Monsieur Intel, je suis anglais, et j'écris un livre sur les situations de MI6 au Moyen-Orient. Et je suis tombé sur votre mère. Et je voudrais parler avec vous, si vous pouvez me donner des témoignages de sa vie lorsque elle était à Beyrouth. Bon, d'accord, j'ai pas réécrit, hein, il y avait un numéro de téléphone juste après. Donc, on s'est parlé, et c'est un homme sérieux, il voulait écrire à propos de Eleanor Filby, qui est le fameux espion de MI6 qui s'est enfui en Russie dans les années 50. Et donc, a priori, donc, ma mère connaissait très bien Eleanor Filby et toute la famille de Eleanor, etc. Et donc, il voulait récupérer des informations. Et là, je me suis dit, mais je sais rien. Il me posait tellement des questions très spécifiques, mais rien. Il n'y avait absolument aucune information que je pouvais... lui donner. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, qu'elle a très bien fait son boulot.
Ouais.
Et puis, il a publié ce livre. Et c'est un de mes amis, en fait, qui me l'a envoyé. Il me dit, tu sais, le livre, quand tu m'avais parlé un jour avec ce mec-là qui écrivait ce livre, ben, finalement, il a été publié, tu devrais le lire. Et j'ai lu, et il y avait quelques pages sur ma mère, et j'ai appris bien plus sur ces quelques pages qu'il a réussi, en fait, à récupérer que j'ai appris de la part de ma famille.
C'est fou comme histoire,
ouais,
absolument dingue. Fou. Alors, j'aimerais quand même parler un peu plus maintenant de votre carrière, parce que j'ai été très longue sur votre enfance, mais franchement, elle est quand même assez extraordinaire. Peut-être pour non pas résumer, mais expliquer à notre audience comment vous vous lancez déjà dans le monde de la télécommunication. Qu'est-ce qui fait que ce monde-là, en fait, assez tôt, parce que c'est quoi, dans les années 90, ouais. début 90, vous interpelle et que vous vous dites, OK, c'est là que j'ai envie de faire ma carrière, parce qu'ensuite, en plus, bah, vous vous spécialisez quand même vraiment là-dedans.
C'était suite d'un échec.
Ouais, c'était pas un choix, alors.
Non, finalement, c'était un échec parce que je voulais être pilote de l'armée de l'air. Et donc, j'étais en prépa et il fallait donc s'inscrire pour passer les examens médicaux. Ensuite,
à ce stade, vous étiez rentré en France.
J'étais déjà en France. Donc, j'étais juste après le bac, donc je suis en sup, je crois. Et je vais à Aix pour faire les examens médicaux.
Ouais.
Et donc j'étais avec mon binôme, qui est d'ailleurs devenu un commandant de patrouille de France, etc. J'avais des lunettes pour les gens qui me voient pas, mais j'ai des lunettes. Et j'avais déjà des lunettes à l'époque. Et donc je passe évidemment à l'examen médical des yeux. On me dit tout de suite que de toute façon j'ai zéro chance de devenir pilote. Donc c'est même pas la peine de continuer les examens, à moins que je veux être un officier de l'armée de l'air, mais qui serait non volant. Ça, c'était hors de question pour moi, parce que je voulais, depuis mon enfance, être pilote de chasse. Donc, ce rêve a échoué.
C'était dur.
C'était très dur. D'autant que mon copain s'est fait sélectionner.
Ouais.
Après cet échec, il fallait trouver une alternative. Soit c'était super héros pour faire ingénieur d'aviation, de construction d'avions, éventuellement Airbus, soit pour faire autre chose. Et donc super héros, ça m'a pas intéressé parce que je me suis dit, j'étais en fait fâché, vexé, profondément vexé par l'aviation et de cet échec. Et donc je me suis penché, j'aime bien les communications, en fait les communications entre humains. Et j'avais vu, lorsque j'étais tout petit, dans un foire, un vidéophone, lorsque j'avais 11 ans, je crois. Ça m'a fasciné de voir ma mère à travers le téléphone. Peut-être que j'aimerais faire ça. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le monde des télécommunications. J'ai boudé l'aviation pour me consacrer au métier de télécommunication.
Heureusement, David, que vous n'aviez pas une bonne vue, j'ai envie de dire.
Heureusement.
Et donc, vous commencez donc à gravir les échelons, je ne sais pas, mais en tout cas, à commencer à avoir quelques étapes clés dans votre carrière. Je voulais quand même parler de l'étape Microsoft.
Oui.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à travailler avec Microsoft?
Ah, c'était une histoire de haine plus que d'amour. donc j'avais l'idée, mais j'étais pas le seul, mais on va dire j'étais parmi les différents pères de la communication sur Internet. Donc ce qu'on fait aujourd'hui avec WhatsApp, FaceTime, etc., c'était déjà quelque chose sur lequel on travaillait. Et j'ai convaincu pas mal de gens à créer donc des investissements dans ce domaine-là. Et ça a été remarqué. Donc j'ai reçu des prix, etc. à ce sujet. Et puis il y avait une société israélienne qui s'appelait Vocaltech, qui a aussi remarqué ce que je faisais dans ce domaine-là et qui faisait aussi de la communication sur Internet. Donc ça s'appelait Internet Phone à l'époque. Et ils m'ont proposé donc de travailler pour eux et j'ai accepté. D'ailleurs, j'ai passé un peu plus d'un an en Israël pendant la guerre de l'Irak, pendant ce moment-là. Et c'était très bien de voir de l'autre côté, en fait, de la culture Moyen-Orient, parce que j'ai toujours été du côté musulman, mais j'ai jamais été du côté israélien. Donc ça, c'était vraiment très, très bien. Mais en dehors de cette exposition culturelle, j'étais très, très frustré par l'inaptitude de Microsoft à comprendre l'importance de la voix sur Internet. Parce qu'en fait, à l'époque, les choses étaient très différentes en termes de distribution. Donc, si vous aviez un logiciel que vous vouliez distribuer, eh bien, il fallait le convaincre les utilisateurs d'aller dans un boutique et les l'acheter. Donc, on achetait à l'époque les logiciels pas en ligne, on allait dans des boutiques pour les acheter. Et donc, c'était très compliqué de le faire, et c'est très très cher de le faire. La seule manière de distribution gratuite, c'était Microsoft. D'ailleurs, c'est là qu'est né le fameux procès Internet Explorer, ouais. Windows 95, etc.
Parce que c'était déjà dans les ordinateurs, en fait. Voilà, les logiciels étaient déjà implantés.
Donc, moi, j'étais très, très frustré. J'ai détesté Microsoft. Ils ne comprenaient pas que le futur leur appartenait. Et que tout ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait qu'ils incluent le Internet Phone qu'on avait dans Windows. Et comme ça, le monde pourrait parler mieux, etc. Et je pouvais pas faire comprendre à Microsoft que c'était ça. Ils avaient un produit qui était pourri, s'appelait NetMeeting, et ils voulaient pas l'améliorer. Et donc, je me suis dit, peut-être que je devrais aller bosser là-bas, aller changer. Et il se trouve qu'en fait, il y avait deux personnes que je connaissais de chez Microsoft. Ils étaient très, très ravis de m'embaucher chez Microsoft. Et j'ai été embauché chez Microsoft. Et je suis allé le deuxième jour voir la personne qui m'a embauché pour lui dire que tout ce qu'il faisait, c'était nul. Et que de toute façon, j'allais quitter parce que j'avais fait une connerie. Et il m'a regardé. Il me dit, toi, tu sais ce que tu veux. Tu ne travailles plus sur le projet pour lequel je t'ai embauché. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et puis, je te laisse libre. Mais
incroyable.
Tu restes.
Incroyable culture quand même de laisser autant de liberté à un nouvel employé.
Autant de liberté à quelqu'un, vous dire, qui était pas si...
Alors vous étiez quand même très très expert dans votre domaine. Mais
j'étais
bon.
Un expert, mais j'avais encore rien accompli qui méritait autant de confiance. Voilà comment je suis entré chez Microsoft.
Bon, et ensuite, vous êtes resté un certain nombre d'années là-bas.
5 ans, oui.
Voilà. Et si je me trompe pas, en 2012, donc là, on fait pas mal de fast forward, on va dire, vous lancez Perso. Ce que je trouve intéressant, donc qui devient quelques années plus tard Symfony, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc vous passez de statut d'employé,
oui.
où vous avez été expert, vous avez accompli énormément de choses et vous avez construit votre légitimité puis votre expertise. Et puis, un jour, vous décidez de lancer votre boîte, quoi, concrètement. Surtout que vous étiez dans des grandes entreprises, parce que le monde de la télécommunication, c'était France Télécom, c'était Microsoft, enfin, je veux dire, c'était quand même des grandes entreprises.
Structure.
Donc, passer de la très grosse structure à je lance une entreprise dans le secteur de la télécommunication, qui est en plus un secteur extrêmement ambitieux, parce que c'est quand même des secteurs globaux qui nécessitent beaucoup d'investissements. Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé vous jeter à l'eau et que vous avez quitté d'une certaine manière le confort d'une vie d'employé dans des grands groupes où en plus tout marchait très bien pour vous pour faire ceci.
D'abord, c'est difficile, hein, Pauline. C'était pas facile.
Je peux imaginer, ouais.
Alors, il y avait, j'étais à Palo Alto. Donc, Palo Alto, c'est vraiment le capital de Silicon Valley. C'est là que Silicon Valley est né. Alors, vous êtes dans un milieu où en fait, vous entrez dans un café, tout le monde parle de son prochain startup. Donc, il y a cette espèce d'ambiance de startup, d'entrepreneur qui est autour de vous et vous l'entendez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est un peu le brainwashing qui existe. Vos copains, ils ne parlent que de ça. Vous entendez tout le temps les gens à votre maison à côté qui viennent de se faire acheter par un mec qui vient de faire un IPO, tout ça. Et donc, vous êtes dans, vous baignez dans ce milieu-là. Alors, ça a un effet quand même sur ce que vous percevez. Vous vous rendez compte que en fait, vous êtes en train de passer à côté, ça se trouve, d'une opportunité pour le désir d'un confort. Et je me suis donc posé la question de savoir, c'est d'abord si j'avais une idée moi-même pour faire quelque chose, et que si j'avais cette idée moi-même, est-ce que j'étais capable de me lancer tout seul, comme tous les autres que je voyais autour de moi qui se lançaient, et dont la plupart d'ailleurs échouaient.
Oui,
donc la plupart
c'est
échouaient.
Tout le monde devient entrepreneur, mais enfin ceux qui réussissent, il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça, d'accord. Et donc, on parle toujours de ceux qui ont réussi, mais on parle très peu de ceux qui ont échoué autour de nous. Mais il y en a quand même beaucoup plus qui ont échoué que ceux qui ont réussi. Et donc, tout ça, ça tournait, on va dire, dans ma tête. Et puis, à un moment, donc, je travaillais pour une grosse structure. Et je m'ennuyais à mourir. Mais vraiment, vraiment à mourir.
Donc on taira le nom de cette entreprise.
On ne va pas le dire. J'arrivais le matin. À 10h, j'avais déjà fini ce que je devais faire. Donc, il fallait que je reste jusqu'à l'heure légale, 17h, pour faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Hein, je suis en train de... je suis en train, en fait, juste de faire ça juste pour de l'argent, mais pas pour, pour faire quelque chose qui peut être plus... je veux dire meaningful, je sais pas comment.
Oui, qui a plus de sens.
Qui a plus de sens. Et je me suis dit, je fais ça parce qu'en fait, j'ai pas le courage. En fait, je dois pas avoir le courage. Je dois pas avoir ce qu'il faut pour faire ça. Et sur ce, de moi, je suis parti, hein, je n'oublierai jamais, je suis parti à marcher tout seul. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le courage? Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas? Et j'ai compris, en fait, que j'avais peur d'échouer. Pas pour des raisons égoïstes, mais pour des raisons économiques. Que si j'échouais et que je n'arriverais pas à trouver un travail, je n'arriverais pas du coup à aider ma famille à vivre selon le standard qu'ils étaient habitués. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me faisait peur. Donc, je me suis dit, OK, donc si c'est ça, je vais trouver une solution. Donc, j'ai trouvé une solution, on va dire, économique. On a vendu la maison, on s'est mis... on a tout réduit. Et je me suis dit, bon, OK, non, maintenant, on a 3 ans de buffer devant
nous. Donc, en fait, vous avez réduit de manière intentionnelle, si je résume, votre
niveau de vie,
quoi,
ouais,
pour pouvoir vivre sans gagner d'argent pendant 3 ans.
Exactement.
D'accord. Ah ouais, donc vous avez quand même osé franchir le pas. J'imagine qu'il y a eu une conversation avec votre épouse à ce moment-là.
Et les enfants.
Et les enfants.
Et moi, je lui ai dit la vérité. Hein. C'était tel que c'est. Je ne pouvais pas prétendre autre chose. Et ils ont accepté, et puis voilà. Donc ça, c'était vraiment en dehors de l'idée de Perzo, etc., c'était en fait l'aventure dans mon cerveau qui m'a permis de franchir le pas.
Et ce qui est incroyable, c'est que vous aviez une deadline, du coup.
Oui.
Vous aviez 3 ans.
Oui, oui, exactement. Je n'avais que 3 ans, et ça a marché en moins de 3 ans, Dieu merci, parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait sinon. Mais je n'ai jamais pensé à l'échec. En fait, c'est très intéressant, parce que je pense que tous les entrepreneurs sont comme ça. Lorsque je me suis lancé, j'ai toujours pensé que ça allait marcher. Je me suis jamais dit que ça va pas marcher. Même si à chaque fois, ces 32 investisseurs que j'ai eus me disaient non, 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 non. Et puis bon, ben finalement, j'ai réussi à récupérer $1 million et c'est devenu 1,8 milliard de dollars. Donc, pas mal.
Pas mal, effectivement. Donc, une fois de plus, on est content que vous ayez de mauvais yeux. David, pour parler quand même un peu plus dans le détail de Symfony, donc on passe de Perzo à Symfony en 2014, c'est
oui,
ça, je crois.
Octobre 2014.
En 2017, Symfony obtient le statut de licorne et est valorisé donc 1 milliard. Ça paraît extrêmement rapide,
oui.
En fait. Et c'est d'ailleurs très rapide. Enfin, passer de 0 à 1 milliard quand même en aussi peu de temps, c'est assez fou. Est-ce que vous pourriez, à l'inverse, nous montrer que certes c'est rapide factuellement, mais que ça a été extrêmement difficile et long comme route, parce que on se connaît pas suffisamment, mais je peux imaginer que ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Et donc j'aimerais comprendre que justement, ben voilà, quels ont été les challenges pour qu'on comprenne que ça n'est pas de la chance. Certes, vous étiez dans la Silicon Valley, vous aviez cette expertise, mais qu'en fait non, c'est pas arrivé par hasard. Et donc peut-être comprendre divers challenges qui ont été les plus importants durant en fait cette aventure qui vous a quand même mené très très loin.
Je pense que j'ai perdu des 10 ou 20 ans de ma vie ces moments-là. Hein. Donc, je pense que souvent on comprend pas si on n'a pas vécu l'intensité de cette aventure. Dans un startup, il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Donc, il y a l'incertitude de la réussite, mais aussi les défis d'exécution qu'on oublie souvent. Pour multiples raisons, parce que souvent on n'est pas très focus, parce qu'on cherche vraiment à trouver différents chemins qui vont marcher. Les gens qui viennent n'ont pas nécessairement l'expérience nécessaire pour pouvoir réussir. Il y a des problèmes humains, etc., etc. Donc, on se trouve dans une situation où c'est comme si autour de moi, l'eau, il y avait des assiettes chinoises, vous savez, les petites baguettes fines sur lesquelles on fait tourner les assiettes, hein, et que si vous arrêtez de les faire tourner, puis les assiettes tombent et se cassent, hein, j'avais l'impression que j'avais que ça autour de moi. Et donc, il fallait chaque fois que j'aille voir chaque discipline de la société pour pouvoir faire tourner ces assiettes-là. Et on a eu plein d'assiettes cassées et plein de moments où je ne savais pas si on allait réussir à faire le produit. En fait, le problème, c'était pas de faire le produit, c'est de faire le produit qui marche dans toutes les circonstances. Il y a eu des catastrophes, toujours à cause des problèmes humains. C'était pas du tout la technologie, c'était le fait comment nous on utilisait la technologie. Un individu qui n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, ou quelqu'un qui pensait l'avoir fait mais l'avait pas fait, etc., etc. Donc on se trouvait souvent dans des situations où, on a échoué. Qu'est-ce qu'on fait pour rebondir? Et tout pendant que tout ça arrive, vous êtes en train de peindre une image très différente aux investisseurs.
Tout est formidable, tout se passe très bien,
etc. Donc vous êtes en train de construire une histoire et ensuite de raconter cette histoire avec l'aisance de quelqu'un qui l'a fait maintes reprises, et c'est absolument pas le cas, mais vous êtes obligé de le faire. Donc vous vous trouvez en fait constamment dans ce paradoxe où dès que vous quittez votre société, tout marche bien, mais lorsque vous entrez dans votre société, tout marche mal.
Mais quand vous voyez le capot sous le capot.
Ah mais et c'est alors quelqu'un mon premier manager en fait m'avait dit un jour, c'est David, t'as l'impression qu'il faut être le meilleur pour réussir dans le business. En fait, c'est pas du tout le cas. Il faut juste être le moins pire.
C'est pas mal.
Et ça a toujours resté. Et je me suis toujours posé la question à chaque instant que j'avais ces difficultés. Est-ce qu'on était au pire? Est-ce qu'on était le pire de pire? Ou est-ce qu'en fait, dans les pires, on était OK? Il y a eu des moments où on était très bien, mais en moyen, on était moyen. Mais on était meilleur moyen que la moyenne. Et donc, c'est cette relativité et la lutte pour y arriver et pour y rester qu'on ne voit pas derrière l'image de l'unicorne. C'est ce poids de l'exécution, le poids de stress qui est associé à ça et la solitude qu'on a lorsqu'on est le directeur général donc de la société.
Vous aviez des associés, vous, David, dans cette histoire?
Non. Et donc, mais vous savez, même si vous avez des associés, il n'y a qu'un seul boss. Et donc, à un moment donné, tout repose sur cette personne-là. Et donc, vous avez la responsabilité pour vos employés, pour votre famille, pour vos investisseurs, pour les clients. Et ça, c'était un moment très difficile. Et j'ai pas célébré d'ailleurs une seule seconde le fait qu'on avait passé l'unicorn. C'est OK, we are unicorn, good. What's my next problem?
Ouais, ça on l'oublie, je pense.
On l'oublie, ouais. Parce qu'en fait, il y a 99% de temps où on a des problèmes et 1% de temps où tout marche bien. Donc là, je pense que la sanité vient, la capacité à gérer les 99% de temps où les choses ne marchent pas.
J'allais vous demander justement, si on prend beaucoup de recul sur ces années et sur cet immense succès, quelles seraient pour vous les quelques meilleures décisions que vous ayez prises pour être le moins pire?
meilleures décisions. D'être à Palo Alto, je pense que c'était une très bonne décision. D'être allé chez Microsoft, c'était une très bonne décision. D'être entré chez France Télécom aussi, c'était une très bonne décision. Et de ne jamais avoir peur de dire ce que je pensais, même si ça m'a beaucoup coûté beaucoup de fois. C'était quand même quelque chose de... Je pense qu'on regrette parfois de le faire sur le moment. Mais lorsque on prend du recul et qu'on a réussi à s'en sortir, on se rend compte que finalement c'était la bonne chose à faire.
Vous auriez un exemple d'une occurrence?
Oh, j'en ai plein. Hein. Je me fais embaucher chez Thomson Reuters après Microsoft. On est dans une réunion avec 300 personnes. Ma première réunion, le management sort et la société va mal. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont recruté pour aider la société. Et ils montrent leur stratégie. Donc le président monte sur la scène, montre la stratégie. Et je vois ça, et je me dis mais c'est vraiment nul quoi. C'est pas une stratégie, ça veut rien dire. Et je lève ma main. Qui c'est ce gars-là, David Gurley, je viens de joindre. Je dis honnêtement, je dis votre truc c'est means nothing.
Première réunion où vous êtes présent, il ne vous connaît pas, quoi.
Ah ouais, tout le monde se retourne.
Qui est cette personne?
Qui c'est cet idiot qui parle comme ça au management? Alors bon, si je pense que ce que j'avais dit était faux, moi je me serais fait allumer sur le camp, mais c'était vrai, c'était le cas. Et donc, le fait que j'ai eu le courage de le faire et de le dire, ça avait soit l'effet, on va dire, d'élimination immédiate, soit l'effet d'élévation. Et j'ai eu l'effet d'élévation. Par exemple, j'aurais pu le dire beaucoup d'une manière beaucoup plus constructive, mais je l'ai pas fait. Voilà, un regret qui s'est bien tourné. Mais enfin, j'ai eu un moment, j'étais chez Microsoft, et faut pas que je fasse attention, faut pas dire des trucs trop confidentiels, mais on va dire que le CEO de l'époque voulait absolument acheter une très très grosse boîte, okay. Plus de 10 milliards. Je trouvais que c'était vraiment stupide de le faire. Et je lui ai dit. J'ai dit non, on peut pas faire ça, pour ces raisons-là, c'est vraiment stupide de faire ça. Et de cette manière. Et donc, il s'est tellement énervé. j'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Et je pense que si on était au Moyen-Orient, ils m'auraient absolument tué avec ce fait.
Je ris, mais c'est pas très drôle.
C'est pas très drôle. Ceci dit, on n'a pas acheté cette boîte. Et j'avais raison, en fait, qu'on n'ait pas fait. Et donc, voilà, c'est ce moment-là qui me reste. Enfin, j'en ai d'autres. Hein, qui sont
et
comme ça,
cette culture de dire ce qu'on pense, c'est quelque chose que vous avez essayé aussi de transmettre à Symphony quand vous étiez président?
Partout. En fait, vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on est dirigeant, les signaux qu'on reçoit s'atténuent. Pour plusieurs raisons.
Bah surtout quand il y a beaucoup de monde.
Ouais, s'atténuent. C'est plusieurs raisons. Et donc, si on n'est pas conscient de cette atténuation des signaux, du coup, on gouverne, on dirige, avec la moitié, même parfois moins des signaux qu'on reçoit. Et c'est vraiment très difficile comme concept de management parce que dans le concept de management de moderne, on vous dit il faut savoir déléguer, il faut savoir empower les gens, il faut leur permettre d'échouer, comme ça ils peuvent apprendre, etc. Donc vous avez cette culture de management qui est là, mais si en fait il y a l'échec, c'est pas eux qui sont responsables, c'est vous. D'accord? Donc souvent l'exécution échoue à cause de ces problèmes-là. Et je pense que si on met pas une culture de transparence d'information vers le CEO et que un employé lambda n'est pas capable d'exprimer quelles que soient les conséquences son opinion, c'est c'est une erreur grossière. En fait, c'est une erreur en fait catastrophique pour la société parce que ça s'accumule. Parce qu'en fait, ça devient en fait la norme de ne pas dire les choses. Et ensuite, les gens ont peur, ou bien les gens ils s'en foutent parce que de toute manière, si je dis quelque chose, personne m'écoute. Ouais. Et donc, ça crée en fait cette culture de destruction au lieu de construction. Et c'est souvent pour ça que les gens quittent, parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est pas tenu en compte, ouais. Ils sont pas respectés du coup. Et le fait d'encourager une culture dans laquelle peut-être que vous faites un peu plus de management impliqué, au coût parfois de management délégué, à mon avis, un élément très important pour le succès d'une boîte.
Merci beaucoup pour ce conseil, David. Alors, je vois que le temps passe et donc on va devoir passer à mon crible. J'avais encore plein de questions, donc je suis un peu triste, mais bon, on se reverra. La première question, c'est est-ce que vous avez un grand échec ? Donc, vous pourriez nous parler, un autre éventuellement que ceux que vous avez évoqués, et surtout les enseignements qu'ils vous ont enseignés. Enfin, qui vous a enseigné.
Un grand échec. Lequel choisir est la grosse question. Le fait d'avoir quitté Microsoft, pour moi, c'est un échec. J'aurais dû rester.
Pourquoi ça?
J'étais très énervé contre le CEO de l'époque. Et c'était une plateforme incroyable. Il y avait un taxe à payer, non? Toutes les grosses plateformes. Mais si j'étais resté, j'aurais pu faire encore plus de choses que j'ai fait. J'ai quand même fait beaucoup de choses chez Microsoft et pour les individus qui utilisent le logiciel Microsoft. Mais pour moi, ça reste, parmi le regret, parmi les choses qui startent avec R, ça reste pour moi voilà, ma plus grosse connerie. J'aurais dû rester et accepter de gérer cette situation. Et mon ego était un peu trop... on va dire, trop inflexible à l'époque.
J'allais vous dire, vous demander plutôt, du coup, qu'est-ce que ça vous a appris, pardon, exactement, sur vous, ce départ?
Que j'étais un égoïste idiot. Et que je savais pas, en fait, gérer les situations.
Vous vouliez avoir raison.
Voilà. C'est, non, mais c'est pas ça. C'est pouvoir dire, je m'en fous, je pars. J'avais, je sais pas, j'étais un peu plus jeune.
Vous aviez quel âge à l'époque, à peu près?
38 ans. Ouais. Donc, je sais pas exactement, on va dire, dans ce moment de ma carrière. Et, oui, je pense que, en fait, j'ai appris de ça parce que j'ai regretté, je continue à le faire jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et c'était vraiment, enfin, ma décision, hein. C'est moi qui ai pris la décision. J'ai pas demandé l'opinion de qui que ce soit. Et bon, je m'en suis sorti. C'est pas que je m'en suis pas sorti, mais bon, voilà.
Donc l'enseignement, c'est ne pas écouter son ego.
Faire attention à son ego. Je pense que l'ego, il faut le cultiver, et c'est un élément très important de notre succès, notre personnalité, notre caractère. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et il faut pas que ça devienne en fait. And liability.
Oui, une nuisance.
Une nuisance à votre vie et à la vie de vos proches.
Est-ce qu'il y a, David, une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, qui vous ont peut-être marqué et que vous pourriez partager avec nous?
Ouais, j'en ai plein, mais dès que vous avez dit ça, Pauline,
il y
en a une qui est arrivée, c'est impossible n'est pas un fait, c'est une opinion.
C'est super, ça. Ouais. Qui a dit ça?
Je sais pas qui a dit ça. J'ai vu ça quelque part, donc je prends pas le crédit pour moi.
Ouais.
Alors, quand vous êtes à la tête d'une boîte, vous devez faire des choses. Parfois, des choses sont difficiles. Et voire très, très difficiles. Et votre équipe, sans qui vous fait rien faire, vous devez les convaincre. Et parfois, votre équipe essaie de vous convaincre que c'est impossible de faire ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut savoir décider si c'est une opinion ou c'est un fait. Et donc, et c'est souvent l'opinion. Et si j'étais resté dans l'impossibilité de toutes les choses qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire, ben on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui.
Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Alors, c'est une question que j'aime beaucoup, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Est-ce que vous constatez que globalement, le monde, la culture occidentale, peu importe, a un certain nombre d'avis, d'opinions sur un sujet et que vous pensez que c'est faux. Comme vous êtes quelqu'un qui visiblement donne son opinion, oui. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Et donc, je veux bien un exemple.
Écoutez, moi, ce qui me gêne le plus au monde d'aujourd'hui, c'est le... Je crois que l'expression, c'est se fourrer le... vous savez, quand les gens parlent entre eux et qu'ils sont très contents entre eux, mais ils veulent pas exposer, ils veulent pas s'exposer aux différences, se bourrer le mou, on dit ça, je crois, c'est ça?
Peut-être, ouais.
Peut-être. L'Internet amplifie et distribue d'une manière très efficace des opinions, qui sont, qui nous satisfont. Mm. Donc, et on a tendance à vouloir aller juste voir les mêmes opinions qu'on aime. Et ça a toujours été comme ça, hein. Donc c'est pas un problème d'Internet, c'est que l'Internet en fait amène à une échelle énorme. Mais cette amplification, en fait, nous assourdit vis-à-vis de la réalité à laquelle on doit faire face. Et aujourd'hui, les élections qu'on est en train de vivre en France, ce qu'on a vécu aux États-Unis. C'est une illustration de ce manque de dialogue, ce refus en fait de confronter nos croyances sur des faits. Moi, ça me gêne énormément parce qu'en fait, au lieu de progresser d'une manière objective et scientifique sur nos acquis, parce qu'on a quand même fait énormément de choses dans l'humanité, et je reste optimiste sur ce qu'on a accompli, mais on est en train de régresser en termes de compréhension de la réalité. Et donc, du coup, on s'attache à des opinions qui nous satisfont, mais qui ne sont pas nécessairement des opinions qui permettent d'améliorer notre réalité.
Et puis qui sont perçues, non pas comme des opinions, mais comme des faits.
Comme des faits. Alors, c'est très difficile aujourd'hui, et dans le passé, de séparer, la croyance des faits, parce que l'humanité est basée sur la croyance et très peu sur le fait. Donc, si on regarde la plupart des décisions qui ont changé la civilisation. Mais on se dit quand même, au 21e siècle, c'est un siècle dans lequel on a accès à plein de choses, on devrait quand même... vous imaginez qu'aux États-Unis, je ne sais pas si ces chiffres sont corrects, mais si c'était correct, ça serait horrible, c'est qu'il y a 10% de gens qui pensent que la Terre est plate.
C'est fou, hein?
Je veux dire, nous vivons quand même à l'époque où ces gens-là utilisent Internet, donc ils peuvent du coup aller faire une recherche et de confronter leurs croyances pour vérifier leur validité.
Oui, mais ils pensent que c'est un espèce de complot ou je ne sais quoi organisé.
Ensuite, il y en a tous les complots qui existent à droite à gauche, les théories, etc. Ouais. Donc, pour moi, c'est ce que je trouve qui est ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on avance, on recule, en fait, vis-à-vis de notre connaissance collective qui devrait nous permettre d'éviter les erreurs du passé. Et en fait, je comprends pourquoi l'histoire se répète. En fait, l'histoire se répète parce que on finit par oublier les erreurs du passé et les générations qui arrivent disent ben, ce qu'ils ont fait dans le passé, de toute façon, c'était pour le passé, donc on va les oublier, on va construire un futur meilleur, mais en fait, ils répètent ben, ce que les autres ont fait, la même chose qu'il y a 50 ans. Et ça, je trouve ça vraiment dommage.
Là, vous parlez en gros d'esprit critique.
Oui.
Comment est-ce qu'on exerce son esprit critique? Comment est-ce que vous, peut-être, à titre personnel, vous essayez de l'exercer? Parce que je rejoins évidemment ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est tellement entouré, finalement, de personnes qui sont comme nous. On a tous ce biais de confirmation, etc., qui fait qu'en fait, on en oublie finalement qu'on est dans l'opinion et qu'on n'est plus dans la réalité, quoi.
Moi, je pense qu'il faut être un peu provocateur. Parce que pour avoir un bon esprit critique, il faut être critiqué. Et donc, ça revient un peu à ce qu'on avait discuté au début, c'est ce feedback. Donc, et il faut savoir recevoir. Et recevoir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire même si vous estimez que vos idées sont les plus justes, les meilleures, etc., il faut accepter que peut-être pas.
Ouais.
Peut-être qu'il faut aller discuter avec quelqu'un de l'extrême gauche, ou l'extrême droite, ou l'extrême nord, ou l'extrême sud, pour que, en fait, vous puissiez comprendre leur argument. et voir d'où ils viennent, et donc du coup permettre de déguiser votre propre esprit, et donc du coup être un meilleur citoyen du monde, pour permettre à notre humanité de progresser et pas de reculer comme on est en train de faire aujourd'hui.
Alors justement, ma prochaine question est sur le fait de changer d'avis. Est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur un sujet? Est-ce que vous pourriez me dire sur quel sujet c'était et m'expliquer pourquoi?
Ah, j'ai changé d'avis. Oui, sur plein de sujets. Je vais vous donner un truc super controversial.
Allez, on adore le non politiquement correct ici.
Ouais,
très bien.
Ouais, un truc vraiment complètement, vraiment fou. Je veux parler de Trump, parce que quand même, c'est un sujet assez important. Donc, il est arrivé au pouvoir, personne n'y croyait, et une personnalité horrible, enfin, par les standards, donc, mais il y en a qui l'adorent, donc on va respecter
l'opinion
des autres, tout ça. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et, mais bon, je me suis cantonné, moi, à la position de anti-Trump, d'accord? Mais par contre, donc je suis un citoyen du monde, je vis à moitié du temps à Hong Kong, et je vois ce que la Chine fait. Et je sais ce que la Chine pense. Et je sais ce que la Chine pense à long terme. Et ce que Trump a fait avec sa politique anti-chinoise, au début, ça m'a semblé fou, hors du monde, et ridicule. Mais petit à petit, je commençais à comprendre mieux, en fait, les effets de la politique chinoise sur l'Occident et comment ils avaient inscrit ces effets-là dans leur politique de 2049, qui est une date très importante pour le Parti communiste chinois. Ça fait là 100 ans, donc la création du Parti communiste chinois. Et comment est-ce que Trump a finalement écouté ses conseillers? Et bon, c'est pas lui qui est arrivé avec cette idée, hein, ce sont ses conseillers, et qui ont conçu en fait cette politique anti-chinoise, peut-être pas anti-chinoise, mais peut-être qu'on va, enfin, on va dire c'est anti-chinoise pour le moment, et qui est aujourd'hui d'ailleurs repris par Biden. Et ça, j'étais obligé d'échanger. C'est très difficile d'accepter qu'un homme
que vous n'appréciez pas,
je n'apprécie pas, que je ne souscris pas à son personnalité et ces trucs-là, que je puisse être d'accord quand même par quelque chose qu'il faisait. Et ça m'a, il a fallu accepter ça. Il a fallu que je le défende aussi parce que j'étais d'accord. Et comment est-ce que je pouvais parler en fait aux gens qui étaient comme moi, qui ne supportaient pas ses décisions et son comportement, et dire finalement mais il a quand même fait une bonne chose. Donc ça c'est l'exemple pour moi qui était très difficile en fait de faire le pas.
Mais c'est, je vous remercie de l'avoir partagé parce que je pense que beaucoup de personnes par principe ne veulent pas être d'accord, même si sur le fond ils pourraient l'être.
Ouais.
Et je trouve que c'est vraiment, très intéressant que vous nous partagiez cet exemple parce que en France évidemment on peut faire le parallèle et se dire que finalement on n'est pas d'accord par principe avec telle ou telle personne parce qu'on n'aime pas cette personne et qu'on n'aime pas ses valeurs, etc. Mais il y a une distinction entre ne pas apprécier ses valeurs et finalement être d'accord ou pas factuellement avec quelque chose que cette personne a fait ou une opinion.
Exactement. Je pense que les individus ont l'impression de violer leur intégrité s'ils changent de
d'avis
ou de point de vue vis-à-vis des choses correctes. En fait, c'est vous êtes accountable, vous êtes responsable que vis-à-vis de vous-même. Donc c'est vous qui déterminez ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, c'est pas les autres individus. Et donc je pense qu'il faut savoir avaler un petit peu son orgueil. et là par exemple ça joue contre nous parce que souvent on prend des décisions par principe et parce qu'elles sont bonnes. Et c'est triste pour je pense que pour notre propre développement.
Une dernière question pour vous, David. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être aussi façonné, enfin, qui vous ont inspiré ou qui ont fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui?
Bah, comme encore une fois, dès que vous avez dit ça, un livre est sorti, Dune, de Frank Herbert.
Alors, je viens de le lire, figurez-vous, c'est drôle.
Ah ouais?
Parce que j'ai vu le film et j'ai absolument rien compris. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même pas mourir inculte. Je vais lire ce chef-d'œuvre de la littérature de la science-fiction. Et donc, j'ai lu les trois premiers tomes. Il y en a six.
D'accord, il y en a six. Ouais. Après, ça devient moins bien. Donc,
ouais, le premier est quand même plus.
Le premier, oui, il est quand même. Ouais, c'est ce livre qui m'a le plus marqué. En fait, ce qui m'a marqué là-dedans, c'est cette transformation de Paul Muadib. Donc, qui, Donc qui a un destin unique dans ce livre et qui petit à petit se rend compte de sa responsabilité et ensuite prend et s'améliore et prend en fait. Et je me suis rendu compte que si vous m'aviez posé la question d'un film, j'aurais pris Groundhog Day.
Groundhog Day. Ah, je connais pas.
C'est le film d'Eric Bill Murray qui c'est une journée qui se répète tout le temps.
Ah oui, oui.
C'est quoi? Peut-être qu'en français, on dit là ça, une journée sans fin,
je crois. Une journée sans fin. Oui.
Et ce que j'aime dans tout ça, en fait, ces deux scénarios, c'est le fait que l'humain, il a un potentiel énorme, parfois illimité, et que s'il est capable de le saisir, il peut vraiment s'améliorer et faire le bien autour. Et qui, pour moi, en fait, c'est le destin de l'homme. Parce que je pense que c'est grâce à ces individus autour de nous, qui sont distingués et qui nous ont dirigés, avec notre, évidemment, parfois notre acceptance, parfois parce qu'on était soumis dans l'histoire, qui a formé, notre civilisation telle qu'il est. C'est parce qu'ils ont décidé d'amener les choses de l'avant, et ils se sont rendus compte qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont améliorés au fur et à mesure. Certains avec bravado, d'autres avec des résultats horribles. Mais néanmoins, je suis fasciné par la capacité de l'homme à s'épanouir et de changer le monde pour le mieux. Et dans Dune, c'est ce qui s'est passé. Et donc, voilà pourquoi.
Et bien écoutez, vous me donnez déjà envie de le relire.
Merci.
C'est un très bel ouvrage. Merci mille fois, David, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Évidemment, on n'a pas parlé de vous. J'invite du coup toutes les personnes qui nous écoutent à peut-être vous suivre, continuer à suivre vos aventures. Alors, vous êtes investi dans plein de startups.
Oui.
Est-ce que vous pourriez dire justement à notre audience où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités si jamais on veut?
Sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, oui, c'est oui. Le plus simple. Donc, c'est David Gourlet.
Voilà.
On vous contacte éventuellement, on vous envoie un petit mot pour dire qu'on a beaucoup aimé cette interview.
Ah, vous êtes, d'abord, pour ceux qui écoutent, merci beaucoup. Mais surtout, merci beaucoup, Pauline,
pour
cette heure formidable. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
Je crois pas, ça va. Puis en tout cas, comme vous dites ce que vous pensez, c'est le plus important. Merci David.
C'est moi qui vous remercie.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.